ensemble, tous les textes que j'ai tirés sont tirés des évangiles. Je n'ai pas, pour une fois, pris des textes dans l'Ancien Testament. Alors, le premier texte que je vais lire, c'est un texte qui est très connu. On parle d'abord du baptême de Jésus. Donc, Luc 3, versets 21 et 22. Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe et une voix se fit entendre du ciel qui disait « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Je lirai un autre passage maintenant qui se trouve dans les évangiles aussi, mais cette fois-ci dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, qui est un passage tout aussi connu. Donc Matthieu 14, à partir du verset 13. Jésus partit dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Apporte-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Un autre passage qui se trouve aussi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, à partir du verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 1. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'épisode de la multiplication des pains. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a quand même sidéré. On voit cette foule qui était là, qui s'était dérangée pour écouter Jésus, et puis à la fin de la journée, était fatiguée. Et Jésus, en les regardant, s'est rendu compte qu'ils avaient faim. Et il leur a donné à manger, mais comme ils n'avaient rien de prévu, eh bien, il a multiplié les pains et les poissons, de sorte que toute la foule qui était là a pu se rassager, a pu manger à sa faim. Et après que tout le monde ait mangé, eh bien, il y avait encore de quoi remplir des paniers. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qui m'a toujours étonné. M'a toujours étonné aussi de voir que Jésus allait partout et il est dit dans sa parole que tous les malades étaient guéris. Mais il y a une chose qui me surprend encore plus, c'est ce que Dieu, que Jésus disait. Il disait aussi que nous ferions des choses comme lui-même les a fait.
et que nous en ferions encore de plus grandes. Alors je me dis quand même, Seigneur, quand j'écoute le récit de la multiplication des pains, quand je vois que tu allais dans les villages et que tu guérissais là-bas tous les malades et tous ceux qui avaient des esprits impurs, et tu me dis à moi que je peux faire des choses plus grandes que celles que tu as faites, ça me sidère quand même. Je suis quand même surpris. Alors je réfléchis quand même. Il y a tellement un décalage entre ce que le Seigneur dit et ce que moi, bon, je ne peux pas parler des autres, que moi je fais. Je dis, pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi, alors que Jésus a dit à l'Église qu'elle accomplirait des choses plus grandes encore que celui qui a fait, pourquoi sommes-nous si souvent réduits à nous contenter du minimum ? Je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut que nous réfléchissions. La première chose que je pourrais dire, c'est que... sur la question sur laquelle on peut réfléchir, c'est à partir de quand Jésus a-t-il fait des miracles ? Il n'a pas fait des miracles. On parle de Jésus dans les évangiles quand il était petit. Mais que je sache, à moins que je me trompe, on n'a pas question de miracles de Jésus quand il était ado. Il n'a commencé à faire des miracles qu'à partir d'un certain moment, à partir du moment où il a été baptisé. Baptisé d'eau, d'accord, mais surtout baptisé du Saint-Esprit. Et que s'est-il passé quand il a été baptisé du Saint-Esprit ? Une voix s'est fait entendre du ciel et elle a dit ceci, cette voix qui venait du Père. « Tu es mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Je pense que quelquefois on parle, je ne suis pas le premier prédicateur à parler du baptême du Saint-Esprit. Quand on parle du baptême du Saint-Esprit, on s'attache souvent à ce qu'on appelle les dons charismatiques, dont il est question dans 1 Corinthiens 12. Mais on ne parle pas tellement de ce dont je vais parler aujourd'hui. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il a été rempli de quoi ? Voici, dit le Seigneur, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On ne parle pas des dons charismatiques, il a mis en lui toute son affection. Alors, on veut dire, est-ce que par là, le Père disait qu'il aimait Jésus ? Oh, bien sûr qu'il aime Jésus. Mais écoute, est-ce que vous croyez vraiment que c'est ça qu'il voulait dire ? Est-ce que simplement lui dire qu'il l'aimait, est-ce que ça demandait à une voix venue du ciel et que tout le monde en soit témoin ? Non, je crois que ça voulait dire autre chose. C'est que le Père a mis en Jésus toute son affection pour le monde. Jésus, le Père a mis en Jésus son amour pour le monde. Cet amour qui a conduit le Père à envoyer précisément Jésus pour que le monde ne périsse pas, mais qu'il vive. C'est ça qu'il a mis en Jésus. Et quand cette parole s'est fait entendre, et ce que Jésus a reçu, c'est l'affection du Père pour le monde. J'ai remarqué ceci. On a lu le miracle de la multiplication des pains et aussi la guérison des malades. Il y a toujours un verset qui revient avant. C'est que c'est écrit « Jésus fut ému de compassion ». C'est la compassion qu'il avait dans son cœur qui l'a conduit à faire les miracles qu'il a fait. Et je crois que là aussi, c'est quelque chose que nous devons comprendre. C'est que être baptisé du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire simplement recevoir les dons charismatiques dont on parle si souvent dans 1 Corinthiens 12, mais ça veut dire aussi recevoir du Seigneur la compassion pour le monde. Et parce que Jésus avait cette compassion,
Alors il a fait ce qu'il avait vu faire par son père. Il est allé visiter les villages. Il a guéri ceux qui étaient malades. Il a soulagé ceux qui étaient dans la peine. Il a donné à manger à ceux qui avaient faim. Ça, c'est une chose extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose peut-être qui nous manque. En tout cas, c'est une dimension du baptême du Saint-Esprit que nous n'avons pas toujours forcément compris. Nous sommes attachés à une expression un petit peu démonstrative des dons charismatiques. Nous sommes friands de paroles prophétiques. Nous sommes friands de parler en langue. Mais le Seigneur aussi est friand de notre amour pour le prochain. Si tu n'aimes pas ton frère, ne dis pas que tu aimes ton Dieu. Ce n'est pas vrai. Et je crois que c'est ça que nous devons comprendre. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli aussi de l'amour de Dieu pour le monde. Et si je suis rempli de l'amour de Dieu pour le monde, Dieu me donne aussi les capacités de répondre à la tristesse du monde. Amen. Est-ce que je comprends ça? En tout cas, après le baptême de Jésus, Jésus a été emmené au désert. Et il a affronté celui qu'on appelle Satan, qu'il a tenté de différentes manières. Pour être honnête, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a dit cette parole-là, mais il l'a dit à un autre moment. Il dit, voici le prince de ce monde, vient, et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. Alors vous allez me dire, est-ce que, et les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous pouvons dire la même chose? Est-ce que, sans sourciller, je peux dire « Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. » Ce n'est pas si sûr. Alors, il faut être clair. Nous qui sommes chrétiens, qui nous nous sommes fait baptiser, ne faisons pas des choses monstrueuses. Enfin, tout au moins, j'espère. Et nous nous sommes repentis des choses monstrueuses que nous pourrions faire. Mais ce n'est pas certain qu'il ne reste pas encore des petites choses auxquelles nous n'avons pas accordé suffisamment d'importance. Et c'est la raison pour laquelle il est difficile pour nous de dire, et mensonger même, je dirais, le prince de ce monde n'a rien en moi. Vous savez, quand nous voyons un exemple qui se trouve dans l'Évangile aussi, alors que Jésus s'approchait de Jérusalem, il a traversé un village de Samaritains et il a demandé à ses disciples d'aller voir les gens de ce village pour le recevoir. Et les Samaritains ne l'ont pas reçu comme ils l'auraient dû le faire. Alors les disciples de Jésus se sont mis en colère et il dit que le feu du ciel tombe sur eux. Jésus leur a dit ceci, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Si je prends ce passage-là, c'est pour que nous comprenions bien qu'il ne s'agit pas de démons, là, il s'agit de disciples de Jésus. Et les disciples de Jésus, en colère de ce qu'ils n'avaient pas été reçus à leur idée, ben voilà qu'ils veulent que le feu du ciel tombe sur ces gens. Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et je crois que là aussi, nous devons réfléchir. De quel esprit suis-je animé? Si je prenais la peine de réfléchir, de me poser la question, il y a certainement beaucoup d'erreurs que je pourrais éviter. Même quand je fais, en théorie, l'œuvre de Dieu. Vous savez, par exemple, si je fais de l'évangélisation, je fais de l'évangélisation pour la gloire de Dieu ou pour me montrer. Ce n'est pas si sûr. Même si je prêche aujourd'hui, si je suis devant vous,
Est-ce que je me soucie uniquement de la gloire de Dieu? Ou est-ce que je cherche qu'on vienne me voir avant et dire « C'est fou quand même ce que tu m'as fait du bien. » Vous voyez ce que je veux dire? Bon, quelquefois, on a quand même tendance à tirer un petit peu la couverture à soi. Soyons clairs. Moi aussi, honnêtement, après une prédication, je préfère que quelqu'un vienne me dire « Tu m'as fait du bien » plutôt que me dire « Ta prédication, t'es nulle. » Ça, c'est vrai. Je préfère. Ça, il n'y a pas de mal à ça. Mais je crois qu'il faut quand même dire ceci. C'est que les motivations des uns et des autres ne sont pas toujours ce qu'on prétend. Il y a des choses que l'on fait prétendument pour la gloire de Dieu, mais qui en réalité sont faites aussi pour d'autres raisons. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir de quel esprit est-ce que je suis animé. Parler du Saint-Esprit, tout à l'heure. Parmi les dons du Saint-Esprit, il y a le don du discernement. Oui. Discernement des esprits, c'est très bien le don du discernement. C'est quand même curieux qu'on a quand même une plus grande faculté à discerner les mauvais esprits qui sont dans l'esprit du voisin que dans les nôtres, que chez nous. Et que quand quelqu'un ne nous plaît pas, on a beaucoup de mal à discerner un bon esprit qui l'habiterait. Pas vrai? Alors je dis, faites attention, hein, parce que là, c'est du discernement sélectif. Je discerne ce que je veux bien discerner. Mais quand ça ne m'arrange pas de discerner certaines choses, je ne le discerne pas. Ou je ne veux pas le discerner. Comprenons bien. Je ne sais pas, je veux réfléchir de quel esprit je suis animé. Il y a des choses dont il faut se débarrasser si je veux être rempli de l'esprit. Rempli de l'esprit, je dis bien. Hein. Mais on ne peut pas être rempli de l'esprit s'il y a un esprit mauvais, en occupe une partie. Non. Si vous avez une maison que vous voulez qu'elle soit remplie de bonnes gens, si vous invitez aussi des gens qui sont mauvais, elle ne sera pas remplie que de bonnes gens. Non. Mais c'est pareil avec les esprits. Donc, il y a des choses dont on doit se débarrasser. Encore une fois, il ne s'agit pas de se débarrasser de choses monstrueuses. Parce que si choses monstrueuses il y a, j'espère quand même que vous les avez chassées depuis longtemps. D'accord, hein, j'espère. Mais il y a des choses quand même qui subsistent et qui font que nous ne sommes pas complètement remplis de l'Esprit de Dieu. Il y a une chose, par exemple, enfin, qui est fréquente en tout cas, c'est l'animosité, c'est la rancœur. Quand on a de la rancœur, c'est parce qu'on a souvent été blessé par quelqu'un et qu'on a du mal à lui pardonner. On sait très bien que le Seigneur nous demande de pardonner. Officiellement, on l'a fait. En théorie, on l'a fait. Mais en réalité, on ne l'a pas fait complètement. On ne l'a pas fait suffisamment. Il reste des miettes. On s'est contenté de mettre le problème entre parenthèses. Bon, c'est-à-dire que je me suis contenté de dire « Je ne vais pas faire d'histoire. Je ne vais pas continuer à parler de cette chose-là. » Et on dit « Je pardonne, mais je n'oublie pas. » Ah, Jésus, il dit quoi ?« Je ne me souviendrai pas de leur péché. » Bon, est-ce que ça veut dire qu'il est parti complètement de sa mémoire? Je ne le crois pas. Mais ça veut dire aussi qu'il fera comme si cette chose-là n'a jamais existé. Est-ce que nous agissons de la même manière? Si nous avons été blessés par quelqu'un, tant que le quelqu'un en question se tient relativement tranquille, ça va. Donc, je ne vais pas faire revenir les souvenirs anciens à la surface. Mais si la personne en question vient à nouveau me taquiner un petit peu ou faire quelque chose qui me déplaît, alors les vieilles choses qui ont en principe été pardonnées et enfouies, voilà qu'elles réapparaissent à la surface. Ce qui veut dire que le pardon n'a pas été complet.
Ce qui veut dire que je n'ai pas complètement accordé la grâce. En tout cas, voilà une des choses qui reste souvent en nous enfouie et qui nous empêche d'être complètement remplis du Saint-Esprit. Et puis ensuite, il y a autre chose. Bon, je parlais tout à l'heure du discernement et ce n'est pas pour rien. Vous savez, Jésus dit qu'il était rentré de compassion. C'est quoi le contraire de la compassion? Quel est le mot que vous emploieriez pour dire exactement le contraire? La haine, c'est peut-être pas l'indifférence. Exactement. C'est l'indifférence. On a beaucoup d'indifférence par rapport à un certain nombre de choses. Ce qui fait qu'il peut y avoir très bien tout un tas de gens à notre connaissance, autour de nous, qui sont dans des situations terribles, et en clair, bon, excusez-moi de dire ça comme ça, mais j'en ai rien à foutre. C'est la vérité. Et ne disons pas que ce n'est pas un tout petit peu vrai. Vous voyez, il y a une chose quand même, quand on parle du discernement, hein, dont je voudrais parler. Par exemple, le problème des immigrés qui arrivent de Syrie et d'ailleurs qui arrivent en France. Le discernement, certains ont le discernement, parce qu'on dit, parmi eux, il y a beaucoup de musulmans, il y a des agents de Daesh, etc., etc. Ce qui est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais, donc, par conséquent, le discernement, ça veut dire que tous ces gens-là, il faut ne surtout pas les accepter, parce qu'on n'a pas envie de faire entrer Daesh chez nous. Mais parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont profondément malheureux et qui ont dû quitter une situation de détresse pour sauver leurs enfants, qui ont fait ce qu'ils peuvent, ce qu'ils ont pu pour échapper à une situation terrible. Et notre discours nous empêche d'avoir de la compassion pour eux. C'est vrai que parmi les immigrants, il y en a qui sont un petit peu tordus et qui ont des idées pour le moins douteuse. Mais il y en a tout simplement qui sont des gens malheureux, profondément malheureux, et qui ont besoin de notre amour et de notre compassion. Est-ce que le Seigneur peut mettre en moi la compassion pour ces gens? Est-ce que je vais me contenter simplement, sous prétexte qu'il a la peau un peu brune et qu'il a des cheveux frisés, de dire que celui-là, ça doit être un agent de Daesh en puissance? Est-ce que je suis capable de me laisser dire ça par le Seigneur? Je crois que, là aussi, si je veux être rempli du Saint-Esprit, il faut que le Seigneur me permette aussi d'accepter qu'il mette en moi la compassion. Seigneur, je te demande pardon, parce que moi aussi, quelquefois, Seigneur, j'ai des préjugés. Moi aussi, je prétends avoir du discernement, mais le discernement, c'est une excuse pour cacher la méchanceté et l'indifférence. Seigneur, je te prie, Seigneur, d'être rempli de la compassion que toi, Jésus, tu as reçue de ton Père, pour regarder le monde avec tes yeux et non pas les miens. Prions le Seigneur. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour être rempli du Saint-Esprit, avec tout ce que cela comporte. Je te demande pardon parce que j'ai laissé quand même le droit à Satan de laisser en moi des miettes. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que tu me mettes à cœur vraiment de les éliminer, afin que je puisse vraiment être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas venu en moi simplement pour que je donne des prophéties ou que je parle en langue. Le Saint-Esprit veut venir en moi aussi pour que j'ai de la compassion, pour que je puisse répondre à la misère qui est autour de moi, que je puisse donner du pain à ceux qui ont faim, pour que je puisse guérir ceux qui sont malades, non pas en mon nom personnel, mais en ton nom. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ne soyons pas sourds, que nous entendions cette voix. Dans la parole de Dieu, on parle aussi d'une chose, c'est quand on fait le ménage, que quand on chasse les esprits mauvais. Bien sûr, dans un premier temps, on est plus propre. Mais il est dit dans la parole de Dieu que l'esprit mauvais, il cherche à revenir avec cet esprit plus méchant. Et il est content de retrouver la maison nettoyée. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire le vide. Il ne suffit pas de chasser les esprits mauvais. Il faut aussi que quelque chose remplace tout ce qui est mauvais. Il faut que j'invite le Saint-Esprit à occuper toute la place. Et si le Saint-Esprit occupe toute la place, il n'y aura plus de place pour les esprits mauvais qui voudraient revenir. Amen. Que je sois rempli du Saint-Esprit, que votre coupe déborde. Et si elle déborde, c'est parce qu'elle est pleine. Et si vous aviez un verre d'eau plein, eh bien, essayez de mettre quelque chose dedans et ça ne rentrera pas. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes plein, vous ne pouvez plus remettre quelque chose dedans. Et si on peut remettre quelque chose dans le verre, c'est parce qu'il n'est pas tout à fait plein. Non. Alors, je ne veux pas être à moitié plein. Parce que si je suis à moitié plein, bientôt je serai rempli d'autre chose. Que je ne veux pas. Amen. Prions le Seigneur vraiment pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit et pas d'autre chose. Ayons conscience aussi de ce que Satan veut mettre en nous et laisser en nous des choses. Encore une fois, pas des choses monstrueuses, parce que les chrétiens que nous sommes ne les accepteraient pas, les choses monstrueuses, mais des petites choses qui vont faire que nous ne sommes pas à la hauteur. Des petites choses qui vont faire que la parole de Dieu ne sera pas accomplie quand il dit « Voici, vous ferez des choses plus grandes que celles même que j'ai faites. » Pourquoi des choses plus grandes? Tout simplement, peut-être parce que le monde dans lequel nous sommes est plus nombreux que celui qui était au temps de Jésus. Je ne sais pas combien était la population de la Terre au temps de Jésus. Bon, à mon avis, ça devait être aux alentours de 200 ou 300 millions. Maintenant, on est combien? 7 milliards. Bon, donc, on a plus de boulot. Non? Seigneur, bon, ça, c'est un petit peu une plaisanterie, mais comprenons quand même. Je veux, et je prie le Seigneur pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et vous savez ce que Jésus dit dans la parole de Dieu? À combien plus forte raison, si vous, méchants comme vous l'êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, ça je plagie le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Seigneur, je te loue et je te bénis pour les perspectives de l'Église. Et je te loue, Seigneur, pour le message que tu as voulu nous donner aujourd'hui. Je prie pour que nous l'entendions et que nous le mettions en pratique. Amen. Tu veux faire la Sainte-Cène, Daniel ?